Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
Et merci d'être ce matin sur RTL. Bonjour Alexis Corbière.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron veut mettre la justice à sa botte ?
Écoutez, moi j'ai lu la presse comme vous, je trouve ça quand même un peu curieux, je crois que c'est inédit que des candidats comme ça soient reçus par le Premier ministre pour remplacer...
Des candidats au poste de procureur
voilà,
général
pardon,
de
des
Paris.
Candidats au poste de procureur pour remplacer M. Molins, que ce soit rencontré par le Premier ministre, que le Président de la République s'en mêle, etc. J'ai envie de dire que c'est une des manifestations aussi de la Ve République. Il a le droit, le Président de la République. Alors c'est pour ça que c'est un peu, c'est ça qu'il faut changer. C'est que la tentation est grande. C'est pas rien. Peut-être que ceux qui nous écoutent n'ont pas compris les enjeux. C'est que des dossiers, notamment, qui peuvent peut-être intéresser certains ministres ou anciens ministres, vont passer entre les mains de ce personnage. Donc on peut avoir.
Vous y voyez un lien, pardon. Vous voyez un lien entre le fait que plusieurs personnes de l'entourage du Président, des ministres,
ben, tout
François
le monde,
Dyssen,
verrait...
Madame Pénicaud, Alexis Kohler, etc., soient visé par une procédure et le fait qu'il veuille choisir entre guillemets, si c'est avéré, les non, trois...
Vous avez raison, il faut mettre tous les conditionnels, vous demandez de réagir. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Les institutions de la Ve République disent justement que le Président de la République, en quelque sorte, est le garant de l'indépendance de la justice. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas nier qu'Emmanuel Macron est aussi un acteur politique. Et c'est là... Alors, comment on fait... Nous, dans notre programme, ce qu'on proposait, c'est de changer tout ça. Il faudrait... plus que ce droit de nomination revienne tel que c'est le cas aujourd'hui, finalement, à une possibilité d'intervention de la ministre de la Justice et de droit de regard du Président de la République. Nous, on avait porté l'idée de modifier ça dans un Conseil supérieur de la Justice, avec notamment des magistrats qui en feraient partie, et notamment des comptes à rendre au Parlement. Il faut parlementariser, du moins qu'il y ait un droit de regard, de contrôle tous les ans. Et il y aurait une possibilité de pluralité et d'éviter qu'un personnage tout seul, dont on peut, même si certains qui nous écoutent sont peut-être très pro-Macron, mais enfin, ils peuvent comprendre que c'est quand même préoccupant qu'un président de la République donne son avis sur la nomination d'un procureur qui sera amené demain à juger
alors
des gens qui lui sont proches.
On rappelle qu'il l'avait assumé, qui pourrait assurer la politique pénale en autonomie complète ? À la fin, tout doit procéder quelque part de la légitimité du peuple, c'est ce qu'il avait dit le 15 janvier. Il assume totalement
mais
le lien
peuple,
organique.
Le peuple, c'est pas le président de la République. Hein.
Bah, il
faut le dire à Emmanuel Macron.
Non,
hein,
mais lui procède du peuple. Il a été élu par le peuple. Donc ça lui donne, dit-il, pense-t-il, la légitimité pour que ceux qui appliquent la politique pénale soient éventuellement choisis par lui.
Oui, mais ça s'appelle une monarchie élective alors, d'accord ? Moi, le peuple aussi, il y a le Parlement. Non mais, attendez.
On est dans une 5e République, un régime présidentiel.
C'est la raison pour laquelle je suis contre. Voilà, je suis pour une 6e République. Je pense qu'on n'est pas en culotte courte, on n'a pas besoin d'élire un chef qui décide de tout. D'accord ? Le président de la République, les gens peuvent comprendre que quand même, le nombre de nominations qui sont entre ses mains au bout d'un moment devient un petit peu un problème. Je veux bien qu'il a beaucoup de qualités, qu'il est plus intelligent que nous, mais on pourrait peut-être admettre que le Parlement, il y a 577 députés, et puis que même le peuple donne son avis sur des choses.
Voilà, bon,
restons-en là, parce que pour l'instant, j'ai réagi à la presse, on verra.
Mais exactement, donc allons plus loin. Est-ce qu'il y a un indice pour vous, qui sera la dernière question, mais est-ce qu'il y a un indice qui prouverait aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante sous Emmanuel Macron ?
Bon, moi, surtout, la justice, elle subit un manque de moyens. Non, mais restons à des choses concrètes. On va voir. Moi, surtout, je pense que la justice, et hier, j'ai rencontré le Premier ministre pour parler de ça, notamment en Seine-Saint-Denis, elle est étouffée par une absence de moyens qui fait que la justice n'est pas la même rendue sur tout le territoire.
D'accord,
je vais prendre un exemple pour entrer dans le sujet. Non, mais parce que je ne veux pas rentrer dans du procès
d'intention. J'ai compris que vous disiez, effectivement, pas de procès d'intention. On n'a pas la preuve aujourd'hui, mais c'est un mauvais
signal. Ce qui n'est pas un procès d'intention de ma part, je n'apprécie pas que le Premier ministre et le Président de la République donnent son avis sur la nomination du procureur, qu'ils les reçoivent et que ils biffent certains noms, c'est pas eux de mon point de vue de faire cette nomination sensible.
Vous étiez donc invité d'Edouard Philippe hier à Matignon avec tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, c'était une première, pour évoquer la situation de votre département sous-doté en service public. On vous écoute, ça change ?
Oui, non, alors voilà, comme je suis un garçon toujours très opposé à la politique du gouvernement, je vais dire à ce micro que je trouve positif que le Premier ministre nous reçoive. Non, mais c'est bien, et qu'on ait un constat partagé suite à un rapport parlementaire qui a été fait par deux députés d'ailleurs qui n'étaient pas des députés de Seine-Saint-Denis et qui ont posé le problème de sous-effectif. Le problème de la Seine-Saint-Denis, c'est pas qu'on veut plus, c'est qu'au moins on veut juste l'égalité républicaine, les mêmes moyens publics pour ce département.
Il est d'accord avec ça ? Il est d'accord avec le fait qu'il y a une inégalité de traitement ?
Oui, il ne l'a pas contesté. Alors, c'est avec le style d'Edouard Philippe, c'est un homme très smart, un peu british, il est économe de mots par moment, mais il y a une élégance dans son propos,
il prend des notes,
et il n'a pas contesté le fait qu'il y avait un problème. Par exemple, je vais prendre, que les gens comprennent, lorsqu'à Paris vous voulez divorcer, ça prend 2 mois. Lorsqu'en Seine-Saint-Denis vous voulez divorcer, ça peut prendre jusqu'à 18 mois. Et le problème que ça pose concrètement, c'était mon ami Clémentine Autain qui le disait, quand vous avez des femmes qui subissent des violences, qui vont voir des élus, qui ont le courage de quitter le domicile conjugal, qu'il faut reloger, quand vous n'avez aucune décision de justice sur le divorce, eh bien ça pose des problèmes. Vous voyez, c'est un enchaînement en raison de l'étouffement notamment des tribunaux et de l'absence de moyens de la justice, il y a un problème. Par exemple, moi je suis élu de Bagnolet. À Bagnolet, le commissariat, il intervient sur près de 800 hectares. À Neuilly, vous voyez, où il ne me semble pas que la délinquance soit plus forte, c'est 297 hectares seulement. Mmh. Et ainsi de suite. Je n'ai même pas un commissariat de plein exercice pour des quartiers quand même qui
alors
subissent.
Ça, c'est un paradoxe.
Et ainsi de suite.
C'est le département
absence de moyens,
le plus...
c'est ça qu'on est venu dire.
Exactement, le département le plus pauvre de France qui a moins de moyens proportionnellement que d'autres. Donc il l'a reconnu, il est d'accord avec le diagnostic. Est-ce que maintenant, vous diriez qu'il est un peu obligé de faire bouger les choses?
Alors,
il vous a dit quoi?
Là où je suis déçu, pardon, je reste moi, mais moi-même, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de cadeau à M. Philippe, il nous a reçus, j'ai dit que c'était bien, mais le repas, la réunion, parce que c'était une réunion en vérité, s'est terminée par « eh bien, je vais réfléchir ». Voilà. Et je n'ai pas plus d'annonces que ça. Il va réfléchir, il va consulter les ministres. On en reste là.
Je ne fais pas d'esbrouf et réfléchis après.
Non,
ce
alors
vous
on
dit.
Peut le voir comme ça. Mais enfin, quand on réunit des parlementaires, qu'il y a un rapport qui est fait, que c'est une accumulation de problèmes, je m'attendais à ce que moi il y ait une méthode, un calendrier. Là, pour l'instant, on n'a rien. Du coup, nous, on se retrouve les élus le 5 octobre avec. On va inviter des acteurs des départements. Continuer à faire entendre cette pression. Comme quoi, ça suffit. École, justice, police, et puis plein d'autres sujets. Ce département qui a des potentiels énormes. Moi, je veux qu'on parle de la Seine-Saint-Denis positivement. Vous savez que c'est le département qui fournit le plus d'étudiants à la France. C'est incroyable. Il y a un potentiel, il y a une jeunesse diplômée, positive, qui est magnifique, qui a des potentialités énormes, mais qui se retrouve souvent en difficulté. Vous habitez la Seine-Saint-Denis, vous voulez aller en fac à la Seine-Saint-Denis, ça peut mettre jusqu'à 1h15, 1h30 de transport. Il y a un problème de transport qui
donc
est insupportable
vous ne lâchez
interne à ce
pas
département.
La pression,
ah ben non, plus que
vous
jamais.
Ne lâchez pas la pression. Il vous a dit, je vais réfléchir. Est-ce que vous lui faites confiance quand même pour... une fois qu'il aura réfléchi, vous apporter des solutions et des moyens.
Je ne conçois pas qu'ils réunissent les gens pour nous dire d'accord. Je réfléchis, qu'il ne se passe rien après. Mais par définition, je suis méfiant. On va voir. Nous, on maintient la pression. On est mobilisé sur beaucoup d'autres sujets. Voilà.
Édouard Philippe, vous l'avez donc vu hier, vous lui reconnaissez quelques qualités, vous lui avez dit, vous attendez maintenant qu'il agisse. Mais il applique la politique définie par le président, qui lui, a-t-il dit hier soir en anglais, se fout des sondages qui sont mauvais. Écoutez.
Obviously, I mean, the best way to be very high in the polls is to give money to people.
C'est vrai que le meilleur moyen d'être haut dans les sondages,
pour vous suivre, hein, ouais.
C'est vrai, je répète, c'est vrai que le meilleur moyen d'être haut dans les sondages, c'est de distribuer de l'argent. Moi, sous-entend-il, enfin il le dit un peu plus tard, je veux réformer en profondeur et les résultats viendront après. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Que lui, il a distribué de l'argent à un électorat très précis, le sien. Il est quand même un peu culotté, le Manu, de parler comme ça, parce que lui, il a donné 5 milliards d'euros d'argent public, notamment en supprimant l'ISF, aux 10 000 contribuables les plus riches. Est-ce que vous savez que les 100 contribuables les plus riches de ce pays, les plus riches, hein, se sont vus rendre individuellement 1,5 million d'euros en raison notamment des baisses d'impôts de M. Macron? Donc lui, il donne de l'argent à un électorat. Il ne faut pas qu'il nous fasse le coup. Et il le fait pour des raisons électoralistes, pour répondre
donc,
à une certaine catégorie de la population, alors qu'il y a 9 millions de pauvres sur lesquels il ne donne pas.
Il vous renvoie une forme de démagogie. Sous-entendu, moi je distribue pas, c'est facile quand on est dans l'opposition de faire
lui,
des promesses.
Il distribue de l'argent. Déjà, j'aimerais que tout le monde relève que lui, il a distribué de l'argent à une catégorie de la population. 5 milliards pour 10 000 contribuables, pour 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, on n'est même pas à 2 milliards, en plus avec des tours de passe-passe. Donc vous voyez, il met plus d'argent pour les plus riches que pour les plus pauvres. Donc j'aime pas ce numéro de démagogie. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas d'élection entre deux? C'est bien qu'il y ait des élections. Oui, il a peur du peuple, c'est quoi la difficulté? Non, parce qu'à l'entendre, il y aurait un problème lorsque, en quelque sorte, pour agir, il faudrait pas être soumis à la pression.
Non, il dit, contrairement à Donald Trump qui a des élections mi-mandat,
oui. Ça ne lui ferait pas de mal en France qu'il y ait des élections en mi-mandat. Ça pourrait être bien. Ouais. C'est quoi ce principe? Moi, je n'aime pas la 5e République rénovée.
Vous voudriez des élections anticipées?
Ce que je n'apprécie pas, en raison du quinquennat désormais, c'est qu'il y a un enchaînement présidentiel-législatif qui fait que, franchement, dans le souffle un peu de la présidentielle, il y a une chambre en général qui suit. Puis après, ciao bello, pendant 5 ans, il peut faire ce qu'il veut, même si les choses se passent mal. À tel point, vous avez vu, c'est ce qui est arrivé à François Hollande, qu'à l'arrivée, lui aussi, qui pensait qu'il fallait être en dehors des sondages, il peut même plus se présenter tellement il est impopulaire. Ce qui serait pas mal si Emmanuel Macron ne se présentait pas la prochaine fois, mais c'est un autre débat.
Vous l'appelez comment, le Manu?
Non, mais pour un peu, parce que là, il est comme il est fanfaron, je me permets, il est fanfaron, monsieur Macron. Il est fanfaron quand il rencontre un chômeur qui lui dit je galère, il lui dit bah t'as qu'à traverser la rue, tu vas rue de Rennes, tu vas trouver du boulot. Ça c'est pas, je veux dire, moi j'ai du respect après en vérité, je fais moi aussi le malin au micro, le président de la République et le président de la République, mais je trouve lui parfois il se permet des formules un peu dures, un peu si tu veux acheter le même costard que moi, bah t'as qu'à travailler mon gars, dit-il à un chômeur.
Il dit qu'il provoque un peu.
Un petit peu.
Vous dites je suis fanfaron, il est fanfaron, pardon. Et vous n'êtes pas un peu agressif à l'égard de Valls, de Manuel Valls?
Qu'est-ce que je dis?
Bah, vous, collectivement, que la candidate, que provoque la démission de Manuel Valls à Évry, votre candidate dise il a trahi sa patrie en allant à Barcelone?
Oui.
C'est pas une phrase. Mais vous voyez les relents qu'il y a derrière cette phrase?
C'est quoi, il n'y a aucun relent.
Trahi sa patrie en allant.
Mais sa patrie de cœur. C'est-à-dire que quand vous avez un candidat qui fait une campagne en disant toujours avec vous, c'était le slogan d'Emmanuel de Manuel Valls, qui dit je resterai avec vous, j'ai toujours été là, élisez-moi, vous verrez ce que vous verrez. Que pendant un an et demi, vous savez, quand je regardais Manuel Valls, qu'est-ce que je voyais à l'Assemblée nationale? Un fauteuil qui était totalement absent, qui ne met plus les pieds à l'Assemblée nationale. Par exemple, il a été nommé président de la mission sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes au courant?
Il
n'a pas fichu les pieds.
Il est allé en Nouvelle-Calédonie avec Christian Jacob.
Il est allé une fois, mais enfin, je veux dire, juste à la veille de l'élection, il s'en va. Non, mais quand on est député, je vais vous dire, moi, je suis issu d'un milieu modeste, on touche une indemnité qui est quand même assez élevée, beaucoup plus élevée que le salaire moyen de ce pays. Et qu'on ne fout pas les pieds à l'Assemblée nationale, c'est une forme de trahison à une conception républicaine. Oui, je le dis, de la patrie. Et c'est la moindre des choses. Mais arrêtez de le défendre. C'est la moindre des choses.
Factuellement, il a été présent au début de la législature dans les commissions. On avait fait l'enquête, on avait regardé.
Non. Vous êtes en train de dire que Manuel Valls, décidément, a honoré le mandat de député en étant pendant un an et demi totalement absent de l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, c'est ça que, une fois qu'on a dit tout ça, écoutez, il s'en va, bon vent. Moi, en plus, je soutiens Ada Colau à Barcelone. Il va quand même porter le fer en portant les intérêts de la droite barcelonaise contre une femme magnifique qui est la maire de Barcelone, militante de terrain pour le droit au logement. Là aussi, c'est quelque chose de très signé politiquement. Mais je lui dis, bon vent, ce qui m'intéresse surtout, et d'un certain point de vue, je suis heureusement surpris, il démissionne de tous ses mandats. Il va y avoir une élection partielle. La candidate insoumise s'appelle Farida Amrani. Je la soutiendrai.
Et ce sera une élection début décembre.
Et ben voilà.
Rendez-vous dans les urnes.
Merci,
on verra
bon
bien.
Courage.
Merci à vous d'avoir été ce matin sur RTL.